Mana Ono, salam. Je suis Simbak et vous écoutez actuellement le podcast Malabar. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter Maïe Rami Prod, qui a monté ce nouvel épisode. Entrepreneur basé en France, il est disponible pour vous accompagner dans tous vos projets vidéo et photo. Retrouvez ses contacts dans le lien de l'épisode. Malabar, c'est le premier podcast qui vous fait découvrir Madagascar autrement. À travers les expériences de mes invités, je vous emmène à la découverte de ce pays qui regorge non seulement de richesses, j'ai nommé la veine de Madagascar, mais aussi et surtout d'une génération fantastique qui veut aider le pays à se développer. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours de mon invité, ses expériences et son regard porté sur le pays. Alors pour suivre toute l'actualité de Malabar, n'hésitez pas à vous rendre sur malabar.fr ou à suivre notre Instagram. Et maintenant, je laisse place à ma conversation avec mon invité du jour. Mon prochain invité s'appelle Inj Maïr. Cet épisode est un nouveau dans son genre. Inj Maïr nous partage son expérience d'entrepreneur qui a échoué, et ce pour de mauvaises raisons. Dans cet épisode, il revient de façon transparente sur la création de son entreprise, les belles années qui ont suivi et qui ont été une pente ascendante pour lui, la naïveté et l'égocentrisme, car quand on est jeune, on est stupide, comme il le dit. Malgré tout, Inj Maïr ne lâche rien, et cela ne l'a pas dégoûté de l'entrepreneuriat. Au contraire, aujourd'hui, il intègre une grosse entreprise pour pouvoir apprendre de ses erreurs, en tirer des leçons pour bien sûr refonder la sienne. Sur ce, je ne vous en dis pas plus et je laisse Inj Maïr vous raconter son histoire. Bonne écoute. Bonjour Inj Maïr, comment vas-tu?
Oui, bonjour. Moi, je dirais plutôt bonsoir parce que là, on est à 19h.
C'est vrai.
Madagascar.
C'est vrai. C'est vrai.
Oui, bonsoir. Ça va bien, ça va bien.
Ça va bien.
On a le cyclone qui vient, mais c'est un peu calme, ça va.
D'accord, d'accord. On se prépare alors, c'est ça?
On se prépare.
Déjà, merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. L'idée, c'est qu'on parle de ton parcours, de ton expérience, dont surtout des apprentissages que tu as eus suite à ta carrière d'entrepreneur, mais j'en dis pas plus. Je te laisse d'abord te présenter aux auditeurs, nous dire quel âge tu as, où est-ce que tu habites actuellement aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais dans la vie.
Premièrement, c'est un grand plaisir de partager avec vous mon petit parcours, je dirais mon petit parcours. Je suis un petit entrepreneur parmi tant d'autres, donc voilà. Actuellement, je vis à Madagascar, j'ai toujours vécu à Madagascar, donc je suis à mes 32 ans maintenant. Donc, je suis encore jeune.
Tout à fait, tout à fait.
J'habite à Antananarivo principalement. Voilà, grosso modo, c'est... voilà. Je suis un jeune entrepreneur qui souhaiterait apporter une nouvelle vision à l'entrepreneuriat madagascar. Mais comme on a discuté tout à l'heure, je suis en mode pending, donc j'expliquerai dans
tout à dans fait l'interview, dans l'interview. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, c'est-à-dire éducatif? Est-ce que tu as d'emblée voulu être entrepreneur une fois les études terminées? Est-ce que tu t'es posé des questions? Comment t'as fait pour passer dans l'entrepreneuriat?
Oui, très bonne question, très bonne question. Donc, on dit, est-ce qu'on est né entrepreneur? Est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'on le devient? Moi, je dirais que je suis né entrepreneur. C'est pas une manière de me vanter ou une manière de me classifier dans une catégorie, mais c'est vraiment une personnalité, un charisme qui était acquis durant tout mon parcours. Je vais pas dire depuis que je suis né, je suis entrepreneur. Ça, c'est un peu.
Mais très jeune.
Il y a cette énergie. Il y a cette énergie, je dirais, que personne d'autre n'a.
D'accord.
Et on me le dit toujours que j'ai une énergie qui dépasse et un peu différent des autres. Donc, pour être court, pour faire court, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc j'ai fait mes livres.
D'accord.
Après le bac, j'ai étudié à l'IST.
D'accord.
Secteur BTP. Mm-hmm. Plus précisément, bâtiment. Donc, c'était une filière que je n'aimais pas trop, mais, bon, la vie a fait que c'est inverse.
D'accord.
J'ai eu mon BTS. Puis mm-hmm. Mon BTS, j'ai travaillé pendant 3 ans, si je m'en souviens très bien.
T'étais salarié, c'est ça?
J'étais salarié au début.
D'accord.
Et j'ai pu apprendre beaucoup de choses dans l'entreprise dont j'étais.
D'accord.
Après, comme je te dis qu'il y a cette énergie qui bouillonne à l'intérieur de nous. Mm-hmm.
Tout à fait.
De vouloir créer sa propre boîte, de vouloir accomplir quelque chose pour la communauté, de vouloir accomplir quelque chose pour la nation. Donc, c'était un peu une obsession pour moi. Allez, on va faire quelque chose.
D'accord.
Donc, en 2014, j'ai créé Ivanco. Mm-hmm. C'est une entreprise qui est dans le domaine de l'événementiel et de la communication.
D'accord.
Donc, voilà, l'idée à l'époque, c'était plus fort que moi, hein. C'était d'être le leader de l'événementiel à Madagascar.
D'accord.
Ok. On a créé des événements, on a fait des soirées, on collaborait avec des artistes, mm-hmm. on collaborait avec des producteurs locaux.
Ça fonctionnait très bien.
Ça fonctionnait très 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 bien. C'était un peu un rêve américain, je dirais, le show business, voilà, que tout le monde te connaisse, toi tu connais tout le monde, tu antique, c'est grec. Donc, moi, je dirais que quelque part, il y avait une réussite. Il y avait un point que moi, j'ai atteint. Mm-hmm. Et 2014, 2015, 2016, 2017, on a fait beaucoup de choses. Mm-hmm. Des grands ou des petits, des corporates ou des privés. Donc, c'était mélangé dans toutes les parties.
D'accord.
C'est là, en fait, qu'il y avait un problème. J'avais un problème à l'époque, c'était en 2018.
D'accord.
J'avais un problème de trésorerie, ça, c'est pas à cacher, hein. Mm-hmm. C'est le nerf de la guerre de tous les entrepreneurs.
Bien sûr.
J'ai décidé de céder l'entreprise parce que, en même temps, j'avais le problème, mais aussi, il y a une certaine, racine qui changeait en moi. Mm-hmm. En fait, Ivanco, c'était plutôt dans le showbiz et tout ça, mais j'avais plutôt une envie de me basculer dans la culture et l'entrepreneuriat purement.
D'accord.
Parce que voilà, la culture ça apporte plus d'apport tant pour moi que pour les autres. Mm-hmm. Et pareil pour l'entrepreneuriat. Donc j'ai cédé l'entreprise en 2018.
Ouais. Ouais. Excuse-moi, hein, je m'arrête. Quand tu l'as cédé l'entreprise, t'étais dans quel état d'esprit? Parce qu'on dit toujours que son entreprise, peut-être même la première encore plus, comme son bébé. Voilà, exactement. Toi, t'étais dans quel état?
Oui, effectivement. Il y a la tristesse que c'est comme un petit bébé que tu vas lâcher comme ça. Mm-hmm. Y avait même une période de dépression, je ne cache pas.
D'accord.
C'était très dur, mais voilà, c'est le parcours d'un entrepreneur, en fait. C'est, il faut aussi, des fois, ou le plus souvent, accepter les choses, accepter les défaites. Et c'est cette faculté d'acceptation qui m'a aidé vraiment à avancer.
D'accord.
Donc, j'ai accepté que, voilà, la vie est comme ça, que des fois on gagne, des fois on perd.
Tout à fait.
Des fois, des fois on est en haut, des fois on est en bas aussi. Voilà, on accepte les choses comme ça. C'est, après, c'est avec le temps, j'ai pu avancer, j'ai pu me relever.
Bien sûr.
Et qu'en 2019, j'ai créé un centre culturel qui s'appelle Global Urban Network.
D'accord. Donc ça t'a pas dégoûté, ça t'a pas dégoûté du monde entrepreneurial, finalement, la première boîte, parce que t'en as fait une deuxième.
Ouais. En 2019, non, pas encore.
Ok.
Parce que j'avais encore l'énergie, j'avais encore le punch. Donc, j'ai monté ce projet en 2019.
D'accord.
Et c'était un projet très authentique. Personne ne le faisait à Madagascar. J'avais confiance en cette idée. C'était un autre bébé pour moi aussi. Donc, en même temps, j'ai créé Global Hub Network, mais j'avais créé aussi une autre entreprise qui s'appelait Torini Project. Torini Project, en fait, c'est la partie encore showbiz de ce que moi je fais.
D'accord.
Mais c'était plus corporate, c'était plus, je dirais, classe. Donc, on connaît tous cette période de la pandémie, la grosse panique en 2019. C'était vraiment un combat que mes collaborateurs connaissent tous, que c'était une grande réflexion. Est-ce qu'on va arrêter le projet? On a déjà investi beaucoup là-dedans. Comment on va faire pour la suite? C'était une casse-tête. Donc, 2019, 2020, 2021, après 3 ans, 2 ans et demi plutôt de réflexion, de combat, je dirais que je m'en sortais pas.
D'accord.
Je m'en sortais pas parce que il y avait un grand gap encore de trésorerie, que il fallait que je paye ceci, il fallait que je paye cela, donc c'était trop lourd. Donc, en même temps, il y avait beaucoup d'histoires que même en une journée, je ne peux pas raconter.
D'accord.
En 2021, je me suis dit, c'est pas un dégoût, hein, c'est vraiment une sensation de comment dirais-je, j'étais fatigué, en fait. J'étais fatigué, j'avais beaucoup d'expérience humaine, j'avais beaucoup d'expérience en termes de trésorerie, j'avais beaucoup... Bon, j'étais très autodidacte dans le truc, en fait, qui m'a fait beaucoup réfléchir sur les points, sur ma vie, surtout. Et c'est là que j'ai décidé vraiment d'arrêter l'entrepreneuriat. D'ailleurs, j'ai annoncé ça sur LinkedIn et Facebook que j'arrête. J'ai reçu beaucoup de MP, de SMS d'appels. Mais bon, on peut pas tout expliquer dans la vie.
Tout à fait.
Et après ça, j'ai envoyé mes CV partout. C'était pas très confortable pour moi, hein, j'avoue. Hein, que tu passes à un stade ton propre patron à être salarié, c'est pas
sûr.
Parce qu'à Madagascar, comme tu sais, hein, on veut le contraire des choses. Quand on est salarié dans une boîte, on se dit, moi, je vais être mon propre patron, je vais créer ma boîte sur les mains et tout ça. Moi, c'était le contraire. Moi, je me disais, allez, je vais aller me prendre ma retraite quelque part. Okay. Mais comme je te dis, moi, je vois les choses positivement. Mm-hmm. Je suis actuellement chez Philatex.
D'accord.
Donc Philatex, c'est le leader à Madagascar en termes d'immobilier. Mm-hmm. Spécialement, pourquoi Philatex? Parce que la vision, c'est il y a une vision que les autres n'ont pas, en fait.
D'accord.
Philatex voit beaucoup en grand. Mm-hmm. Philatex, c'est une entité dont je me projette, en quelque sorte. J'ai pas connu le leader à l'époque, hein, mm-hmm. mais c'est avec le temps que je me suis intégré petit à petit dans la structure.
D'accord.
Et là, j'apprends beaucoup de choses. J'apprends des choses que moi, je n'arriverai jamais à apprendre en temps normal d'entrepreneuriat.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, c'est vraiment une époque de ma vie que, voilà, Yann de Maillet, tu devrais rester là pour apprendre telle chose, mm-hmm. telle chose. Mm-hmm. Et voilà.
D'accord, ah. D'accord. Ok. J'aimerais revenir un peu à ton statut d'entrepreneur, parce que tu as quand même rencontré pas mal de difficultés, que ce soit financières, peut-être aussi il y avait énormément de gestion, etc. Je sais qu'en Europe, il y a beaucoup de structures qui t'aident, il y a des gens vers qui tu peux te tourner, il y a peut-être des communautés d'entrepreneurs qui sont solidaires entre eux. Est-ce qu'à Madagascar, t'as cette option-là qui existe, que ce soit des institutions publiques ou privées, hein, mises en place par l'État ou non, mais est-ce que tu as cette option-là de te faire épauler quand tu te lances en tant qu'entrepreneur ou même pendant ton aventure entrepreneuriale?
Bon, une très bonne question. En fait, l'entrepreneuriat à Madagascar, hein, c'est pas facile. C'est pas comme tu dis, en Europe, il y a des structures qui t'accompagnent. Je vais pas dire non plus qu'il y a pas, il y a pas, il y a pas ça à Madagascar. Mm-hmm. Oui, l'État a mis en place des programmes, des projets pour soutenir les entrepreneurs. D'ailleurs, il y a beaucoup de privés qui essaient de mettre en place aussi des choses qui sont pas très mal. Mm-hmm. Donc, ça va être un peu méchant de ma part, mais pour moi, tout ça, c'est pas ça pour moi l'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. C'est un combat. Mm-hmm. C'est un charisme qu'il faut cultiver dans le temps. C'est un réseautage.
Tout à fait.
On a besoin, oui, de toutes ces théories, business plan, pitch. Mais pour moi, tout ça passe après. Donc tout le monde ici dit que voilà, on veut être leader, on veut être machin. Moi, je ne suis pas contre. Hein. On va être clair là-dessus. Mm-hmm. Mais si on veut vraiment parler de entrepreneurship, il faut aller au cœur vraiment de qu'est-ce qui motive les gens à le faire.
Oui.
Parce que si tu veux structure ou pas structure, accompagnement ou pas accompagnement, si toi en tant que personne, tu n'as même pas le punch de faire les choses, tu n'as même pas la vision. Donc, pour moi, ça ne sert à rien. C'est argent perdu, c'est temps perdu.
Du temps, oui.
Mais moi, je dis que moi, je peux citer des initiatives que j'apprécie beaucoup, hein, mm-hmm. comme Nexta. Il y a aussi Workshop ID Center. Il y a aussi le programme de l'État FIARIN, qui est un bon programme dont j'encourage vraiment. Je ne sais pas qui est l'initiateur, mais c'est un programme qui est très riche en accompagnement, qui est très riche en financement. Donc c'est bien, faut continuer comme ça. Il y a aussi je m'en souviens pas le nom là, c'est Prosperin Cialoun qui a mis en place des structures. Mm-hmm. Je trouve ça très bien. Tout ça c'est très bien, c'est très bien.
D'accord.
C'est admirable, il faut les soutenir aussi. Ce sont des structures qui aident vraiment les jeunes à se développer dans ce sens.
Bien sûr.
Mais
bien
moi,
sûr.
J'étais plutôt dans le sens pratique des choses. Mm-hmm. J'étais plutôt dans le sens, je dirais, militaire de l'entrepreneuriat. Donc, même moi, actuellement, je reviens encore à mes apprentissages. Hein. J'apprends à refaire le business plan.
Bien sûr. Les basiques.
Mon pitch. Moi, j'apprends le cabala maintenant. Donc, comme je te dis, l'entrepreneuriat, c'est tout un art de tomber et puis de se dire que qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est quoi le problème.
Tout à fait.
C'est notre épisode qui souffre. Mm-hmm. Et moi, je ne te cache pas, là, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Hein. Je me suis remis à l'école de la langue. Mm-hmm. Je me suis remis à apprendre tous ces outils qu'utilisent les entreprises numériques, le RP, tout ça. Donc, voilà, c'est une nouvelle, une nouvelle époque pour moi.
Tout à fait.
Dont j'apprécie beaucoup, hein, parce que il y a des choses que moi j'ai pas vécues avant que maintenant j'apprends. Et voilà, je te laisse poser d'autres questions parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais
mais c'est bien. Non, mais c'est ce qu'il faut. Moi, j'aimerais juste rebondir sur deux choses. La première, comme tu disais tout à l'heure, son entreprise, c'est un peu son bébé. Et puis quand tu l'as laissé, bah bien sûr c'est toujours une épreuve. Mais je pars du principe que toute expérience apporte quelque chose. J'aimerais savoir ce que toi tu en tires de ces expériences. Qu'est-ce que tu as appris, que ce soit au niveau personnel, comme tu disais par exemple le côté humain, le côté d'être toujours sollicité aussi par des clients, et aussi le côté professionnel bien sûr. Qu'est-ce que ça t'a apporté toi?
D'accord. Bon, je vais commencer par le côté professionnel. Mm-hmm. Moi, j'ai appris beaucoup du management, mm-hmm. Du leadership aussi, bien sûr. J'ai appris que si on veut accomplir des grandes choses, mm-hmm. il faut apprendre beaucoup. Il faut lire beaucoup. Il faut s'informer beaucoup. Moi, je souligne le mot beaucoup. Hein,
c'est ce que je vois. C'est bien.
Oui, c'est par exemple, si tu parles de ERP.
Oui.
Oui, tout le monde connaît l'ERP. Hein, mm-hmm. Mais à grande échelle, comment on va exploiter l'ERP? C'est compliqué, hein. Mm-hmm. Mais c'est une casse-tête. Professionnellement, donc, j'ai appris que on peut pas gérer une entreprise d'une manière spontanée. Il faut vraiment penser aux stratégies dont tu veux mener les choses et être très 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 malin dans tes stratégies. Il faut aussi savoir gérer la continuité de tes projets.
Mm-hmm.
Il faut aussi, voilà, il y a beaucoup de choses côté professionnel.
D'accord.
Côté relationnel aussi. Moi, je suis un homme un peu agressif.
Mm-hmm.
Donc, j'ai appris beaucoup. J'ai beaucoup appris que il faut être stratégique aussi dans la façon dont tu mènes tes clients,
mm-hmm.
tes fournisseurs, bien qu'on veut arriver vite fait à un objectif, mais il faut être très stratège en fait. Donc voilà, donc tout ça implique le marketing,
mm-hmm.
le management, la finance, la pro, la logistique. Donc start-up ou pas start-up, c'est être autodidacte sur beaucoup de choses, c'est obligé. Donc ça c'est côté professionnel. Donc côté perso, c'est là qui est un peu dur en fait, parce que il faut gérer entre le stress, ses émotions et comment dirais-je la balance vraiment de ta vie.
Mmh. Ta vie privée, tu veux dire?
Vie privée, c'est pas évident. C'est pas que tu es entrepreneur que tu peux tout avoir comme ça. Mais c'est un management comme un autre. Donc tu gères beaucoup de choses côté perso.
D'accord.
Donc c'est ce que j'ai appris aussi. Il faut faire très attention à Madagascar.
Mm-hmm.
Là, je souligne à Madagascar. Il y a des paramètres qu'on n'évoque pas dans les écoles et tout ça. Il faut faire très attention par exemple, je veux te dire des choses.
Mm-hmm.
Tu crées une idée.
Mm-hmm.
Tu élabores des plans stratégiques et tout. Mais il faut faire très attention. Il y a pas mal de gens qui vont te voler l'idée, vite fait.
Mm-hmm.
Ça, je pense que ça existe un peu partout dans le monde, mais
oui.
Ici, ça se fait comme ça. Hein. Donc, si on est trop bavard avec ses idées, faut être sûr que l'idée n'est plus à toi après.
Donc, il y a un manque de confiance, en fait, entre nous, entre Malgaches.
Voilà.
Okay.
Moi, je ne vais pas dire manque de confiance, c'est plutôt un monde un peu malsain.
D'accord.
Un monde un peu, voilà, en toute utilité, juste comme ça. C'est une réalité. Hein.
Mm-hmm.
Puis aussi, c'est un grand piège en fait, le fait que tu crées une entreprise et que tu veux structurer les choses vite fait comme ça. Non, mm-hmm. non, ça c'est faut pas, il faut aller doucement. Si je peux conseiller les jeunes, vas-y doucement. C'est pas que tu as beaucoup d'argent que tu vas te dire ok, je vais mettre un directeur de production, je vais mettre un responsable communication. Mm-hmm. C'était l'erreur que moi j'ai fait.
D'accord.
C'est comme ça.
Mm-hmm.
Ta tête roule à 1000 km à l'heure, donc tu veux accomplir les choses vite fait comme ça.
Tout à
non,
fait.
Ça marche pas comme ça. Il faut parce que il y a la phase de croissance, il y a la phase d'observation, il y a la phase bêta comme moi je dis. Donc la phase bêta, là tu testes les choses, si ça mm-hmm. marche ou ça marche pas.
Tout à fait.
Voilà, c'est en un an, en deux ans, après tu décides si tu vas renforcer ta structure ou tu vas laisser tomber.
Mm-hmm.
Mais vraiment, je vois beaucoup de jeunes ici hein, faire des erreurs comme ça. Ils sont chauds, ils sont ils ont du punch, qu'ils louent des bureaux, ils louent des locaux, ils investissent dans des moyens colossaux, que après, ils s'en sortent pas. Après un an, deux ans, ils se disent, tiens, mon bilan, il fait négatif. Donc c'est ma plus grande, déception. c'était après que je me suis dit, oh mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça?
Mais là, pourquoi du coup, c'est dur, alors que... c'est là que t'as besoin de t'entourer, non? Parce que toi, t'étais tout seul dans tes projets.
Voilà. Donc, c'est là, en fait, l'utilité véritable de ces structures, comme on dit, comme on vient de discuter. Mm-hmm, c'est vraiment accompagner les jeunes d'une manière très pratique que, voilà, faut pas aller très vite. Mm-hmm. Il faut observer, il faut réfléchir, il faut aller doucement et se donner vraiment le temps de se développer dans le temps, mm-hmm. parce que une entreprise, c'est pas en 2 ans, 3 ans,
tout à
c'est
fait.
En 5 ans, 10 ans, 15 ans.
Bien sûr.
Mais comme je te dis, que je vois beaucoup de jeunes qui se trompent là-dedans, penche. Des amis, des proches, oui, on dit, fais pas ça, mais après, on peut pas aussi donner des leçons à n'importe qui, hein.
Tout à fait. Et la deuxième question que je voulais te poser, concernant ton parcours, donc t'as connu l'entrepreneuriat, aujourd'hui t'es salarié. Alors je dis pas que c'est dans un futur proche, que ce sera forcément demain. Mais tu disais que maintenant, tu es revenu à un état d'esprit où tu veux apprendre, acquérir des nouvelles compétences, comprendre aussi comment font les grandes entreprises pour être avant-gardistes, pour se projeter, etc. Est-ce que tu penses que dans un futur, tu pourrais retourner dans le monde de l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te stimuler encore?
Oui, bien sûr.
Oui, d'accord.
Moi, je dis, je suis né entrepreneur. Mm-hmm. Salarié ou pas salarié, j'ai toujours cet esprit de guerrier, de vouloir faire les choses. Même ça, c'est palpable. Hein. Ici, au sein de l'entreprise, ça se sent que tu es un entrepreneur. Mm-hmm. Tu n'as pas l'esprit d'un simple salarié, je m'excuse, hein, mm-hmm, c'est mm-hmm. vraiment ça. Moi, je considère l'entreprise comme la mienne, et c'est malgré moi, c'est même pas moi, c'est vraiment un état d'esprit que j'ai gagné,
c'est
dans
sûr,
le temps,
sûr,
que
ouais.
j'ai un objectif, mm-hmm. c'est cet objectif-là qui me fait bouger.
D'accord.
Donc, que je sois salarié ou pas, encore une fois, pour moi, c'est pas le fait que je travaille pour quelqu'un, que je ne suis pas entrepreneur, c'est pas ça. Mm-hmm. Même si je suis là, c'est la façon dont je fais les choses, la façon dont je mène les projets dont je fais. Mm-hmm. C'est ça qui me rend, en fait, entrepreneur.
D'accord.
Donc, si on va se projeter dans le futur, mm-hmm. oui, bien sûr, je sais pas, d'ici 5 ans, 6 ans, 10 ans, je sais pas. Mm-hmm. D'ailleurs, j'ai encore ma boîte Torini Project actuellement.
D'accord.
Qui n'est pas dédiée du tout. Donc, j'ai encore cette structure-là. J'utilise quand même en temps de besoin ou de sollicitation.
D'accord.
Je reste comme ça, tout en avançant doucement. Mm-hmm. Donc, moi, comme je te dis, je me donne vraiment le temps de penser, je me donne le temps d'apprendre, mm-hmm. je me donne le mm-hmm. temps d'apprendre des autres surtout. Je me donne le temps de me perfectionner. Et donc, une fois que je serais décidé de refaire surface. Là, je t'assure, je serais le meilleur entrepreneur de tous les temps.
Bon, je le souhaite. Non, mais on te le souhaite parce que finalement, le monde de l'entrepreneuriat, ça prend aussi sur ton ego. Il faut le dire aussi. Non, mais parce que finalement, c'est ton image. Toi, tu le vois comme ton entreprise étant ton bébé, mais les gens, ils voient les entreprises et ils voient toi à travers. Donc, si tu connais le succès, bah forcément, t'es un homme merveilleux. T'es bon dans le business, mais si tu connais l'échec, bah forcément, ta personnalité en pâtit aussi. Donc ça prend sur ton ego dans les deux cas.
Oui, oui, oui. Non, moi, je suis fier de moi. Hein,
oui.
Que j'ai fait beaucoup d'échecs, tu sais, beaucoup, beaucoup d'échecs, beaucoup de bêtises, beaucoup de bordel, comme on dit. Mm-hmm. Mais je peux dire actuellement que c'est tout ça qui m'a rendu ce que moi je suis actuellement.
Tout à fait.
Je ne veux pas dire qui suis-je actuellement. Non, ça c'est. Je suis qu'un simple citoyen actif, mais je peux dire que parmi les jeunes malgaches, je suis quand même une icône pour certains. Mm-hmm. Que je suis un. D'ailleurs, je reçois beaucoup de messages hein, sur LinkedIn et tout ça. Mm-hmm. Est-ce que je peux faire des conférences ici, je peux faire des conférences là-bas. Pour le moment, je filtre un peu parce que je me suis dit, il y a beaucoup de choses à encore apprendre, donc je me donne un peu le temps. Mais ce sont ces échecs-là qui m'ont rendu très fort, très fort. Parce que quand on dit échec, c'est dépression, c'est
oui,
perte, c'est perte de relations aussi, donc ouais, tout ça. Ouais. J'ai perdu beaucoup de relations, j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai perdu beaucoup de d'autorité aussi. Il y a rien, comme on dit en entrepreneuriat, on peut être héros à zéro. Donc moi j'ai passé ce stade-là. Mm-hmm. Donc en interaction humaine, je suis devenu très intelligent. Je lis dans la tête des gens que moi je faisais pas avant. Mm-hmm. Donc je lis dans la tête des clients. Je quand tu me parles, je sais à quoi tu penses. Et tout ça, c'est moi-même je me rends compte, mais pourquoi je suis devenu comme ça. Donc c'est un flair qui est devenu une habitude, un flair de gestion, un flair d'intelligence, que voilà, si je fais ça, ça va être le résultat.
D'accord.
Si je fais ça, ça marche pas. Allez, on va faire ça, on va faire ça. Donc, ça, c'est, si tu commences l'entrepreneuriat, tu n'as jamais, tu n'as pas cette faculté de trier les choses, mais, moi, je peux dire que 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, oh là là, avec toutes ces expériences, hein, c'est un bagage dont je souhaiterais utiliser, comme je te dis, dans la culture et l'entrepreneuriat. Et j'ai vraiment une vision pour Madagascar. Hein. C'est partager aux jeunes que on a tous, en chacun de nous, une lumière. Mm-hmm. Et cette lumière-là, c'est naturel. Moi, je ne vais pas dire c'est spirituel, moi, je dirais c'est naturel. Mais avec la vie sociale, cette atmosphère à Madagascar qui n'est pas très sain. On meurt à petit feu. On n'a plus de vision, on n'a plus de on n'arrive plus à se projeter dans le futur. En fait. Mais moi je me bats. Je suis un de Maillère. Tout le monde ici me connaît comment je suis. Bon, à un certain moment, je me suis dit j'en peux plus machin. Mais moi je me dis, je veux encore faire. Mm-hmm. Je reviendrai plus fort plus intelligent, plus voilà, plus puissant, je dirais,
oui.
Avec toutes ces expériences. Donc voilà, c'est
d'accord, d'accord.
C'est encore un volcan qui dort. Mais un jour ça va.
Mais tu vas être en éruption sous peu de temps. D'accord.
Oui.
Pour finir, Ingemeyer, parce que le temps passe, j'aimerais finir avec trois petites questions que j'ai préparées, que je pose régulièrement à tous mes invités, parce que ça me permet aussi de voir un peu ce que vous pensez aussi sur ces points-là. La première question, c'est qu'est-ce qui te retient aujourd'hui à Madagascar? Qu'est-ce qui fait que tu y es toujours et que tu n'as pas décidé de quitter le pays?
Bon, qu'est-ce qui me retient? Pour être franc, c'est la famille, c'est tout. Pour moi, c'est tout.
D'accord.
La famille et les proches. Après, j'ai les moyens, hein, dans le sens où si je veux quitter Madagascar maintenant, je trouverai les moyens d'aller à Dubaï ou aller en France ou aller en Afrique du Sud, en Maurice. On est entrepreneur, on est vraiment très libre dans nos actions, donc je dirais que Madagascar, pour moi, d'ailleurs, je te donnerai plus tard un lien. J'ai fait une vidéo en fait qui montre une destination à Madagascar. Moi, je dirais que Madagascar, c'est beau. Il y a tout ici. C'était une vision parmi d'autres. C'était un projet dont je reprendrai plus tard. C'est vraiment faire des vidéos qui montrent la beauté de Madagascar. Parce que on a les plus belles plages. On a cette vie qu'on dit Moura Moura. Bon, on a une facilité ici. On a des gens qui sont super, c'est pas pour l'autométro ici, hein. On peut quand même sortir entre amis, en soirée. Bon, il y a cette facilité de vie dans,
d'accord,
qui va peut-être me manquer beaucoup à l'extérieur, mais je dirais que on a beaucoup de choses à faire à Madagascar.
D'accord, d'accord.
J'ai aussi un peu, pas beaucoup, une vision politique, plutôt en projet de développement de communauté, de ville, je dirais. J'ai cette vision de développer ma ville d'une manière éco. Moi, je veux dire éco, bon.
D'accord, d'accord.
Mais c'est pas trop une ambition, mais voilà, il y a des choses à faire. Donc tu me dis qu'est-ce qui me retient. C'est la famille, c'est la vision.
C'est la famille et ta vision. D'accord.
Moi je me dis si je vais aller en France, qu'est-ce que je vais faire là-bas?
Tout à fait.
Avec cette pression, non, je m'y vais pas, franchement.
D'accord, d'accord. Ma deuxième question, c'est quels sont tes conseils pour avoir une vie épanouie à Madagascar?
Ah, là, c'est... Je ne sais pas si c'est moi qui devrais répondre à cette question ou pas.
Pourquoi?
Mais à mon point de vue, hein, il faut apprendre. Parce qu'ici, les jeunes, hein, si tu veux, beaucoup de jeunes, moi, je dirais à 80. Soit c'est un chemin qui est influencé par les réseaux sociaux.
Tout à fait.
Il y a ce monde de bling-bling, il y a ce monde un peu capitaliste, je veux dire, mais un peu européen. Bon, c'est devenu en fait un peu vicieux. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Je pense que si on veut être épanoui à Madagascar, il faut aller dans le sens où bien bosser.
Oui.
Bien bosser, faire beaucoup de Si on veut monter sa propre boîte,
d'accord,
c'est tant mieux. Faire très attention.
D'accord.
Mais voilà, aller dans le sens où tu vas monter ton bagage, académie, expérience de vie, et que avoir une vision de carrière, et que après que tu travailles pour quelqu'un ou que tu travailles à ton compte, tu as vraiment ta personnalité, même si tu veux entrer dans la politique.
Bien sûr.
Donc c'est vraiment une question de personnalité, une question de diplôme surtout,
d'accord,
une question de culture, une question de relation. Donc tout ça, il faut bien cultiver si on veut survivre en Mada, sinon c'est compliqué, c'est compliqué.
D'accord, d'accord. Et ma dernière question, c'est s'il y a quelque chose que tu voudrais dire, quelque chose qu'on n'a pas abordé pendant l'interview, que tu souhaiterais partager en deux minutes, un petit message qui s'adresse aux auditeurs.
D'accord. Moi, je dirais plutôt les jeunes. Hein. Les jeunes. Je ne sais pas à quel âge on est jeune, 50, 40, 30. Il y a beaucoup de choses à faire pour Madagascar. J'ai rien contre vous qui se projette à l'extérieur. Non, pas du tout. C'est une chose. Mais faites quelque chose pour Madagascar. Donc là, je vais un peu sauter hein, sur quelque chose. Là, on dit que les Karanes, les Vazas et machin, parce que pourquoi? Parce que nous, on ne fait pas. Parce que nous, les Malgaches, on prend le plaisir d'aller habiter en France, à Dubaï, mais non, non. Ici, il y a beaucoup de choses à faire que dans l'énergie, la recherche, l'éducation, l'entrepreneuriat, l'immobilier, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, moi, si je vous conseille quelque chose, donc si j'ai quelque chose à dire, donc, ça, je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Mais pour contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de Madagascar, parce que on parle des provinces, on parle de la capitale. C'est vaste en terrain. Même si tu parles du tourisme, moi je te dis italien, les français, les américains, les sud-africains, qui investissent dans l'implantation de structure hôtelière, c'est incroyable. C'est pas le cash. Donc, j'ai un peu contre, j'ai un peu quelque chose contre le mariage qui sont très intelligents mais qui partent. Ça me rend un peu triste, voilà.
D'accord.
On se projette toujours à l'étranger. Moi, donc,
d'accord.
S'il vous plaît. Oui, on dit que la Madagascar, c'est partout dans le monde, c'est la
même chose. Tout à fait.
C'est pas moi, c'est pas toi qui va dire allez, on va en carte de la rue. Moi, je ne suis pas allé dans ce sens. Un système que tu vas aller à au Canada, c'est un système comme un autre. Donc, pour moi, il faut s'adapter à la réalité.
D'accord.
Et se dire que moi, je suis malgache, je suis un Américain, mon pays m'attend pas. Parce que moi, je te dis, ne serait-ce que le sujet du Kéré dans le sud, C'est triste.
D'accord.
Parce que voilà, c'est apprendre aux jeunes, l'entrepreneuriat, apprendre aux jeunes des choses, quoi. Donc, c'est un peu lent, mais je pense que c'est solide ce que je vous dis.
Oui, oui, tout à fait.
Comme je te dis, moi, j'ai bien les moyens, j'ai bien le culot d'aller habiter à l'extérieur. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Mm-hmm. J'ai beaucoup de connaissances, mais voilà, moi, je ne vais pas y aller.
D'accord, d'accord.
Je veux servir mon pays.
Très bien.
Même si on dit que ça coûte. Mais on va faire en sorte que ça coûte pas.
D'accord, d'accord, très bien. Ben écoute, merci beaucoup André Meyer pour ton témoignage et puis je te souhaite plein de réussites et une bonne continuation.
Merci à toi et je m'excuse, je suis un peu genre très direct, hein. Je cache pas des choses. Donc merci aux auditeurs, merci spécialement aux jeunes mages qui ont prêté oreille. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc si vous avez des questions, je suis très actif sur LinkedIn.
Tout à fait. Je mettrai le lien. Je mettrai le lien dans les notes de ton profil, si tu le souhaites, et aussi de la vidéo que tu nous as mentionnée.
Ça y est, l'épisode est terminé et merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité de Malabar, n'hésitez pas à vous rendre sur le site malabar.fr ou sur Instagram. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Malabar est toujours à la recherche d'expériences insolites. Alors si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même souhaitez partager votre histoire sur Malabar, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. À bientôt pour un nouvel épisode de Malabar.